No, English is not the only official language of ISA. Spanish, French, and many other languages are official in our organization. And so, in honor to diversity, I ask to speak in French. If he agrees.
Je vais effectivement m'exprimer en français, ce qui ne nous empêchera pas de discuter. Essentiellement parce que je vais vous parler de matériel de recherche sur lequel je n'ai écrit ni en français ni en anglais. Je suis du reste pas toujours sûr du choix des termes, en particulier lorsque je parle de subjectivité, de subjectivation ou de désubjectivation. Et j'aimerais inscrire tout ça dans un raisonnement qui lui-même reste un peu hésitant. Le choix de la langue, la discussion ne devrait pas nous entraver, je pense. Alors je voudrais partir du sujet, dans les termes que nous connaissons ici, et encore plus du corps du sujet, en proposant une hypothèse de travail immédiate, et m'en expliquant, c'est-à-dire cette relation que le sujet entretient avec son corps, précisément dans ces mouvements de subjectivation et de désubjectivation qui nous intéressent beaucoup, en particulier au Cadix, voyant non seulement le sujet apparaître dans les dimensions réflexives que l'on connaît, c'est-à-dire ce travail de conscience de soi, mais aussi le sujet apparaître à travers des expériences, et en particulier des expériences vécues, sinon avec son corps, du moins qui engagent son corps, étant entendu que ces expériences peuvent avoir des formes très très personnelles, et que précisément elles se limitent parfois à sa personne. Alors je précise un peu ce premier point, cette image, cet objet qui nous apparaît, en l'illustrant un peu sur des relations de soins, et en particulier des relations de soins sur le corps. Et vous le voyez, si j'étais en anglais, déjà les difficultés se poseraient, puisque nous avons plusieurs traductions, aussi bien pour soins que pour corps. Alors je ne vais pas rentrer dans ce détail, je vais juste prendre une image plus lourde, en disant que cette relation du sujet et du corps, telle qu'elle m'apparaît, me semble être à l'exact opposé de l'image développée par Pierre Bourdieu lorsqu'il parle d'habitus et lorsque précisément il s'intéresse au corps, y compris dans ses premiers travaux. On explique très, très rapidement en disant que ce rapport au corps à partir de l'intégration, en particulier des ordres sociaux qui s'imprègnent sur le corps jusqu'à former, voire déformer le corps, sont aujourd'hui, me semble-t-il, à peu près inverse. Et c'est là où est l'hypothèse de travail, où je suis très prudent, par rapport à, pour l'instant, ce que j'appelle le matériel de terrain, dans un champ, pour prendre le terme de Bourdieu que je viens d'évoquer, les relations de soins, c'est-à-dire ce qui retient mon attention, c'est ce qui se vit sur le corps et qui cherche à s'externaliser, c'est-à-dire non pas l'incorporation, mais au contraire l'excorporation, c'est-à-dire cette sortie de l'expérience, de son caractère isolé, peut-être unique, qui peut être très 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 subjectivé, précisément dans la dimension personnelle, mais qui cherche finalement son prolongement dans l'espace public et qui bute sur les ordres, sur les régulations de la vie sociale, sur les institutions, sur les lois, et puis aussi, on le sait, sur des représentations morales, je reviendrai dans un instant, par rapport à des questions médicales ou de soins. Je redis l'idée, elle est très simple, et d'une certaine manière, elle touche le vocabulaire. Je parlerai par exemple beaucoup plus de violence institutionnelle, lorsque Pierre Bourdieu parle de violence symbolique, définition que nous connaissons, c'est-à-dire cette manière dont, précisément, de manière violente, les ordres s'inscrivent sur les sujets, alors que je fais la proposition inverse, comment le sujet part de son expérience telle qu'il la vit sur son corps pour chercher sa prolongation, pour chercher peut-être sa répétition et peut-être même son institutionnalisation. On le voit par exemple dans les dimensions conjugales sur les couples homosexuels ou autres, et de manière beaucoup plus diffuse et beaucoup plus large dans des tas de mouvements sociaux ou en tout cas d'engagements publics, collectifs, de nature à discuter les ordres. Alors je développe à peine, j'indique ici qu'il y a aussi une forme de dépassement de soi dans ce rapport personnel au corps, qui n'est pas simplement la prolongation d'une expérience ou la recherche de son institutionnalisation. Il y a aussi des formes de solidarité qui passent par cette conscience du corps ou de son corps. L'exemple qui vient est par exemple celui des malades du cancer qui s'engagent pour transformer les relations médicales, pour transformer les contenus de l'expérience qu'ils ont vécue, sachant parfaitement qu'ils ne vivront pas cette transformation ou que l'expérience vécue est supportée sur leur propre corps de la maladie et de ses soins, et ils s'engagent pourtant, ils rentrent dans des actions collectives et ils l'expliquent très bien pour les autres malades, ceux qui ne manqueront pas d'arriver et dont ils souhaitent qu'ils ne vivent pas la même expérience et surtout la même traduction sur leur propre corps, sachant que, s'agissant d'eux-mêmes, ouvrant la voie à ce qu'on a pu appeler ces mobilisations de malades ou ces actions collectives de malades, ouvrant la voie précisément à la construction d'une expérience différente pour un autre qu'eux-mêmes, alors qu'ils l'ont vécu personnellement sur leur corps et qu'ils ne sauraient vivre cette fois-ci la prolongation en termes de transformation ou en termes de renversement des ordres sociaux, des représentations sociales. Donc c'est ce mouvement, c'est cette hypothèse, cette manière dont on sort en quelque sorte de cette dimension personnelle, et pas simplement l'inscription des ordres sur sa personne, voire sur son corps, qui m'intéresse. Je vais développer un, deux, trois points autour de cette idée. J'indique juste que le CADIS, d'une manière générale, puisque je le dirige actuellement, d'une manière générale, s'inscrit dans ce mouvement de subjectivation et de désubjectivation et s'intéresse à des processus sociaux, à des expériences, et pas simplement à la construction d'une catégorie de sujets plus ou moins performante qui agirait, qui pourrait être innovant, comme un acteur social constitué, solide et capable de renverser les ordres sociaux. Nous sommes effectivement dans ce mouvement beaucoup plus de construction de la subjectivité à travers parfois des expériences qui la déforment, voire qui la transforment, bien souvent en confrontation avec des ordres sociaux qui se traduisent dans des lois ou dans des représentations sociales, mais qui agissent et qui conditionnent évidemment le devenir de l'expérience du sujet vécu à travers son propre corps. Ce sont donc bien ces processus, subjectivation et désubjectivation, qui peuvent nous intéresser, le tout pensé dans un cadre dont on a tous compris qu'il s'était considérablement élargi. Je dirais que l'idée de société n'est pas une idée pertinente pour produire les analyses qui sont les nôtres, alors que la relation du sujet avec le mouvement de globalisation ou mondialisation que d'autres ont mieux nommé que moi, cette mise en perspective de la subjectivation, des subjectivations dans cet événement qu'est la globalisation, eh bien, ça nous intéresse, ou en tout cas, c'est autour de ça qu'aujourd'hui se construisent les appareils théoriques, voire les expériences méthodologiques, pour mieux comprendre précisément l'expérience même du sujet. Deuxième, une fois ça étant posé, ou en tout cas cette hypothèse assez générale étant posée, quelle discussion, quel échange à avoir avec les théories des mouvements sociaux, et en particulier à partir de ce corps du sujet dont je fais l'hypothèse aujourd'hui que ce rapport au corps oriente le sujet ou l'acteur social dans des engagements de nature, précisément, pas seulement à transformer les ordres sociaux, mais à permettre la réalisation du sujet, de cette construction du sujet, à partir de son expérience singulière, sans être entravé par des ordres sociaux. Je ne suis pas sûr qu'il soit toujours porteur d'une utopie, toujours porteur d'un projet collectif, toujours porteur d'un objectif, d'un type ou d'un autre, mais il est de nature à, au moins, élargir les débats publics, à introduire dans les débats publics ou dans cette préoccupation qui consiste à élaborer les droits sociaux, et bien sa réalité de sujet, telle que précisément il l'a vécu à travers des expériences dont il garde non seulement le souvenir, mais dont il garde l'intention et la volonté en le répétant éventuellement et en trouvant évidemment dans les ordres sociaux la possibilité de s'exprimer à partir de lui-même, abordé comme un sujet. Alors, dans la dimension du mouvement social, sur cette dynamique, sur cette perspective, sur cet engagement de l'acteur social, du sujet social, pour apparaître à partir non pas des représentations ou des catégories dans lesquelles éventuellement on peut le désigner, on peut l'enfermer, mais à partir de lui-même, je vois à peu près deux grandes lignes, on pourrait évidemment affiner et prolonger. La première, c'est assez simple, c'est l'idée d'un sujet offensif à partir de sa subjectivité. Là, j'indique juste que son dimension offensive par rapport à mon point de départ, c'est une recherche d'altérité ou une recherche pas de partage des expériences qui éventuellement se vivraient dans des traits communautaires, comme ça a été évoqué tout à l'heure, mais effectivement un sujet qui, dans sa recherche d'altérité, sert à sortir des catégories de désignation et tout simplement des interdits qui le concernent, y compris dans son rapport personnel au corps, pour affronter, pour se confronter lors d'une épreuve personnelle, et bien précisément à tout ce qui désubjective ce que le sujet a pu expérimenter à travers ses propres actions et ressenties ou en tout cas inscrits dans ses engagements. L'idée ici, prolonge la précédente, dans ce sujet offensif, c'est un sujet qui, et parfois il pourrait aller jusqu'à l'esthétisme, un sujet qui a une dimension créatrice, qui évidemment cherche sa reconnaissance et qui ouvre des voies nouvelles dans certains cas, mais qui aussi, dans cette dimension offensive, à partir de soi et de son expérience, j'y verrais assez facilement le mouvement des indignés, par exemple, tel qu'on l'a commenté ici ou à d'autres tables, qui précisément cherchent des espaces pour réaliser leur subjectivité, sans pour autant bouleverser l'ordre social. Chercher un travail, et avoir un toit, c'est effectivement nécessaire pour vivre en sujet, en tout cas c'est peut-être indispensable, et encore plus quand on a 20 ou 25 ans, c'est-à-dire ce dépassement de soi, cette manière de s'imposer à partir de soi, de pas forcément révolutionner, transformer les ordres, de revendiquer de manière presque minimaliste, souvent de manière très simple et très symbolique, mais en sollicitant, en mobilisant, en visibilisant son corps, qui, effectivement, ici, revendique eh bien, des droits fondamentaux, des droits essentiels, des droits nécessaires pour continuer à quoi ? Eh bien, à être un jeune ou à être quelqu'un qui s'inscrit dans une dimension qui consistera à se réaliser dans la société. Mais on le voit, l'idée ici, dans cette dimension offensive, est beaucoup plus une recherche d'altérité sans altération, c'est-à-dire une capacité à être soi-même dans le lien à l'autre sans que ce lien à l'autre détruise la perception qu'on a de soi-même, et encore plus lorsque cette perception de soi-même est construite sur des expériences réalisées qui cherchent soit leur prolongement, soit leur reconnaissance, soit tout simplement d'être respecté, d'être reconnu. Dans une autre dimension sur les mouvements sociaux, et à partir de cette dynamique d'excorporation, d'excorporéité, c'est-à-dire l'inverse de la figure de l'intégration, de l'assimilation, de l'habitus, pour aller encore plus vite, je parlerai d'un sujet défensif et qui cette fois-ci est peut-être moins dans la recherche d'altérité, ce sujet défensif l'est avant tout de sa propre subjectivité et des espaces éventuellement dans lesquels il réalise sa subjectivité. Cette dimension-là peut être même celle de la défense de la solitude. Je pense en particulier, pour mettre à votre recherche, aux situations de fin de vie, c'est-à-dire de mourant, qui évidemment, et je l'ai écrit, évolue difficilement dans une catégorie ou un statut, ça n'a pas grand sens, et qui au fond peuvent désigner, y compris les formes de l'accompagnement, comme des formes entravantes pour eux-mêmes, en particulier lorsqu'elles s'imposent à leur propre volonté, par exemple par rapport à des échéances, par rapport à des limites qu'ils ont posées à leur corps, y compris face à des soins, et assumant parfois le refus de soins. Mais vous le voyez, cette défense de soi, cette défense du corps, avec des termes très forts qui apparaissent, y compris dans des discussions difficiles avec les médecins, par exemple, le refus de la maîtrise du corps, du sujet, du point de vue d'une opinion médicale est très courante, et face à des situations de fin de vie, en particulier lorsque la mort peut être décidée, eh bien on voit ce sujet que j'appelle défensif, qui est moins dans une recherche d'altérité, qui est beaucoup plus, non pas centré sur lui-même, mais qui admet, je pense, et après tout, Norbert Elias l'a très bien dit, admet une certaine solitude pour le mourant, le titre est bien connu. Troisième remarque, et j'en terminerai, c'est l'idée, et je reprends ce que je disais au départ, l'écart, je ne développe pas plus, mais entre violence symbolique et violence institutionnelle. Disons, dans ce mouvement, qui n'est pas d'incorporation, mais au contraire de sortie du sujet à partir de son corps, s'appuyant sur son corps et sur ce qui a été vécu, je dirais qu'il y a là un enjeu, et je reparle des émotions plus précisément, un enjeu qui est celui beaucoup plus de la conscience de la transgression, et en particulier lorsqu'elle a sollicité son propre corps, plutôt que celle des émotions sur lesquelles je reste un tout petit peu prudent. Je m'explique. Dans l'image des violences symboliques que l'on connaît, donc cette incorporation de l'ordre jusqu'à informer le corps, très vite nous arrivons à une représentation morale de la vie sociale. C'est-à-dire très vite, nous arrivons, et en particulier lorsqu'on rentre dans des champs professionnels par exemple, à des attendus du corps qui correspondent à des attendus moraux. On le voit très bien dans les relations de médecine, par exemple, demande pour faire des enfants dans des couples qui ne sont pas conformes précisément à des ordres sociaux ou à des représentations sociales qui parfois sont encore plus fortes dans leur fonctionnement, dans leur efficacité que les lois. Il y a des décisions de médecine qui se prennent sur des représentations morales et qui dérogent à la loi ou qui appliquent des lois qui sont écrites nulle part. Ce que je veux dire, c'est que dans la dimension violence symbolique, on peut aller effectivement jusqu'au bout de cette image de l'imposition de l'ordre qui, sur les sujets, leur fait ressentir la violence au moment du passage par le corps. Dans l'image de violence institutionnelle, que je développerai plus, que j'adosserai plus à ce vocabulaire qui lui-même se cherche, je l'ai dit, je suis beaucoup plus proche d'une représentation politique de la vie sociale, accordant au sujet une dimension éthique, une qualité éthique, encore une fois, dans la relation de médecine, quelle que soit sa demande. Qu'il demande d'accéder à l'enfant alors qu'il n'est pas dans un couple qui, normalement, permet de faire des enfants, c'est ne pas l'entendre, c'est l'aborder à partir d'une représentation morale de l'ordre social que je viens d'évoquer, et c'est sans aucun doute générer des violences symboliques. L'aborder en termes politiques, en termes éthiques, faire l'hypothèse que le sujet est éthique dans ses demandes sans le juger moralement permet cette fois-ci au contraire de rentrer dans une réponse d'abord, mais en particulier une discussion où l'éthique et la politique mettent au cœur de leurs arguments le corps du sujet, le rapport personnel du sujet à son corps, les usages du corps par le sujet et de pouvoir répondre ou pas à sa demande, mais avec des arguments qui ne sont pas simplement des arguments moraux, question des arguments qui reprendront par exemple des questions médicales, parce qu'il peut y avoir des questions strictement médicales qui peuvent empêcher une situation, et précisément c'est quand on a le dépassement de cette limite médicale que naissent ces demandes. Et vous le voyez, si je continue à aborder les choses de manière morale, j'interdirai au corps un certain nombre d'expressions, alors que si j'entends de manière éthique la demande et ce qu'elle sollicite en termes politiques, y compris pour l'ordre social, eh bien une voie de passage est possible et une réponse est possible à partir de cette conception politique. Je défends donc une approche plus forte du côté de la perception des violences institutionnelles dans les interdits qu'elles génèrent au moment précisément d'expressions liées à son propre corps, qui engagent son propre corps et qui sont de nature à bouleverser jusqu'aux représentations sociales, plutôt que ce mouvement des violences symboliques que j'aurais évoqué. Je développe deux points et j'en termine en prolongeant sur cette dimension éthique et politique, ou une approche éthique et politique du corps du sujet, et encore plus lorsque ce sujet parle à partir de son expérience, et plus encore lorsqu'elle est vécue, et non pas simplement projetée ou imaginée, qui bouleverse, ou qui en tout cas nous interroge sur les limites évidentes que nos sociétés s'imposent. Je ne développe à peine, mais en France, si vous cherchez une mère porteuse, il vaut mieux aller en Angleterre. Si vous voulez des ovocytes, vous venez en Espagne. Si vous êtes un couple homosexuel, il vaut mieux aller en Belgique. Et si vous voulez mourir dignement, peut-être vaut-il mieux aller en Suisse. Nous sommes dans des espaces territoriaux, et vous voyez, si j'ai interrogé l'éthique médicale dans la manière dont elle aborde un certain nombre de demandes qui sont très vite dénoncées dans des représentations, dans des ordres de type utilitariste, dénonçant la dimension consommatrice des malades, vous le voyez, je peux m'interroger sur qu'est-ce qu'une éthique médicale qui s'arrête à la frontière. Est-ce que l'éthique médicale et la définition légale s'accouplent ou se fonctionnent de manière aussi serrée? La réponse est oui. Et en même temps, on n'est plus face à une éthique médicale, face à des sujets, qu'ils soient malades ou qu'ils ne le soient pas d'ailleurs, mais qui adressent à la médecine et éventuellement aux soins, en particulier sur les situations de fin de vie, adressent des demandes qui sont de nature, je le répète, évidemment à bouleverser ou à atteindre, enfreindre l'ordre social, mais qui sont surtout des expressions individuelles liées le plus souvent à des expériences personnelles qui précisément cherchent à se réaliser, non pas sur un ordre juridique, mais qui s'adressent effectivement à une éthique, ici l'éthique de la médecine. Et vous voyez, la réponse va être complètement cerclée, complètement construite, alors que la dynamique qui génère ces débats éthiques et parfois ces impasses éthiques est alimentée par des sujets, par des individus ayant construit des expériences et qui sont aujourd'hui susceptibles de les prolonger, qu'ils bousculent ou pas l'ordre social. Deuxième et dernière remarque, cette construction éthique et politique du rapport à l'autre à travers l'idéal du soin, que je connais mieux, que j'étudie mieux, nous écarte aussi considérablement, et je reviens sur la notion d'émotion, nous écarte considérablement des théories du care. Et je vous ai dit que j'étais prudent sur les traductions. Les théories du care qui ont eu un gros succès dernièrement en France, dont je pense moi qu'elles ne dépassent pas le statut de la philosophie critique et ne nous ouvrent pas beaucoup de débouchés en sociologie. Ce qui est étudié finalement, au bout du compte, par les théoriciens du care, c'est ce qu'ils appellent maintenant le travail du care, qui n'est jamais peut-être que la marge d'observation, ce qui se dégage dans une observation et qui est issu de la subjectivité du chercheur. Alors je développe à peine ce que je veux dire, c'est que mes études en cours montrent qu'il faut prendre au sérieux la capacité des sujets à s'extraire du lien à l'autre, alors que le care, par son approche, qu'il s'agisse du souci de l'autre ou de la bienveillance, est enfermé dans la relation au sens de l'altérité. Alors j'ai dit, moi, que ce qui m'intéressait, ce sont ces relations d'altérité sans altération, c'est-à-dire sans dégradation du sujet qui porte le contenu de la relation, de l'expérience en cours, et ce sont ces situations qui mettent en évidence le mieux ce travail d'objectivation, de désubjectivation que tout sujet traverse, vit, avec une logique qui est constitutive de la vie sociale, dans la capacité à publiciser, à sortir de cette enceinte qui est celle du corps, mais bien souvent, la plupart des expériences personnelles resteront limitées précisément à son propre corps et ne parviendront pas à sortir à raison de la capacité ou pas de ces sujets, non seulement de s'organiser collectivement et d'intervenir, mais de dépasser en quelque sorte, y compris les théories, et notamment ce que j'appellerais la sociologie des émotions ici, pour au contraire mettre en évidence eh bien, les mouvements de subjectivation, désubjectivation. Je ne reprends pas la critique de Sartre, qui est un peu ancienne, d'un texte qu'il n'a jamais terminé lorsqu'il lisait encore dans les années 30 et se référait beaucoup à la phénoménologie, mais Sartre l'a très bien dit. En critiquant les psychologues en particulier, nous ne pouvons pas interpréter l'émotion. L'émotion, par définition, a un contenu profondément intime. On ne sait pas à quel moment une émotion peut surgir. Elle peut surgir ici au timbre d'une voix qui me rappellerait une autre voix, laquelle, et qu'est-ce qu'elle suscite pour moi. Nul ne peut ni le savoir, et encore moins l'analyser. Ce que je veux dire ici, c'est, sans substituer les choses, mais tout de même, je crois que sous la catégorie ou le registre de l'émotion, nous devons retrouver ces mouvements de subjectivation et désubjectivation, c'est-à-dire le rapport personnel du sujet à lui-même et à son corps, et plus encore lorsqu'il engage ce corps pour transformer la vie sociale, pour souhaiter, en tout cas, qu'elle laisse l'expression à sa propre subjectivité. J'en termine là, mais ce qui m'intéresse le plus, vous l'avez compris, sur violence symbolique, violence institutionnelle, c'est non seulement l'infraction que peut consister le sujet lorsqu'il intervient dans l'espace public et dans la vie politique, mais c'est aussi, je crois qu'en termes que je n'ai pas développé, la conscience de la transgression plutôt que celle des émotions qui m'intéresse si je prends ce mouvement de subjectivation et de désubjectivation comme étant le support aujourd'hui à la construction du sujet et à sa capacité de transformation sociale.
Thank you. Thank you, Philippe, for that, this very rich and complex reflection. Everybody understands that a lot would be lost in translation, so thanks to... I've said it in French.